Drogue. Contrôle. Performance. Soupçon.
De la gloire au scandale. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport.
Bonjour, je m'appelle Lou Levadou et aujourd'hui nous allons revenir sur l'affaire Festina. Ce balado, relatant une affaire essentielle dans l'histoire de la lutte contre le dopage dans le sport, est divisé en 3 épisodes. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3, nous vous poserons un regard sur l'organisation systémique du dopage au sein de l'équipe Festina, ainsi que sur les conséquences relatives à cette affaire. Avant tout, je vous rappelle qu'il est bien important d'aller écouter les épisodes 1 et 2 de cette série de 3 pour bien comprendre tous les enjeux de cette affaire. Pour rappel, seulement 3 jours avant le départ du 85e Tour de France, le masseur de l'équipe star Festina est arrêté non loin de la frontière belge avec dans sa voiture des quantités phénoménales de produits dopants en tout genre. Cette arrestation entraîna un ouragan sur l'épreuve de la Grande Boucle cette année-là. Ce tour de 1998 n'est pas connu pour les exploits des coureurs, mais plutôt pour la mise en lumière d'un processus de dopage généralisé dans le cyclisme mondial. Il est important de se pencher tout d'abord sur ce qui pourrait être qualifié de bête noire pour ce Tour de France 1998, le dopage. Le dopage se définit par l'usage de substances ou de procédés qui ont pour but premier d'améliorer les performances sportives. Avant que l'affaire Festina n'éclate en 1998, le dopage était un sujet tabou dans le cyclisme mondial. Les équipes parlaient plutôt de suivi médical et non de protocole de dopage. Cependant, c'est depuis l'origine du sport cycliste en compétition que les premières traces de dopage sont apparues. Évidemment, les techniques de dopage du 19e siècle n'étaient pas comparables avec celles d'aujourd'hui, ni même celles de 1998. Au départ, les cyclistes prenaient du cognac, du calva ou encore des litres de café pour se donner du courage avant les courses. Puis, c'est dès le début du XXe siècle que sont apparues des substances utilisées en médecine, mais détournées de leur objet premier sur le Tour de France. Ainsi, la cocaïne, la strychnine ou même l'arsenic étaient utilisées pour donner un petit coup de pouce aux cyclistes lors des grandes courses. À cette période, les contrôles antidopage n'existaient pas encore, donc il n'y avait aucun risque pour les coureurs concernant leur participation aux courses. C'est dans les années 60 que le phénomène du dopage a pris de l'ampleur. De nouvelles substances firent leur apparition sur le tour, telles que les amphétamines. Les premières dérives apparurent également. Sur le Tour de France 1967, le coureur anglais Tom Simpson est victime d'un malaise en pleine ascension du Mont Ventoux. Il décédera sur le tour et l'examen post-mortem révélera qu'il avait consommé un cocktail fatal d'amphétamines et d'alcool. Or, même après ce drame, le dopage continua son expansion. Dans les années 90, de nombreuses sociétés ont commencé à investir dans les disciplines sportives les plus populaires comme le cyclisme. Lorsque de grosses sommes d'argent sont en jeu, de grosses retombées sont également attendues. Toutes les pressions financières pesaient sur les cyclistes qui devaient briller à tout prix. C'est ainsi que les cyclistes se sont entourés de médecins spécialisés afin d'encadrer la prise de substances. De plus, les médecins qui avaient connaissance de toutes les avancées en biologie prescrivaient de nouvelles substances aux coureurs. Il s'agissait d'ailleurs de substances totalement détournées de leur utilisation première, mais qui avaient des effets bénéfiques sur les performances des sportifs. C'est dans ce cadre que l'érythropoïne fit son apparition dans le monde du cyclisme dans les années 90. L'érythropoïne, également appelée EPO, est une hormone qui stimule la fabrication des globules rouges. Elle est produite naturellement par le rein et le foie, mais peut aussi être créée artificiellement. Au départ, cette hormone était administrée seulement aux personnes atteintes du sida en phase terminale. Mais les médecins présents dans les équipes sportives ont vite compris que l'hormone avait un atout majeur. Elle améliore l'oxygénation du sang et donc permet aux sportifs de récupérer plus rapidement. Consciente de l'utilisation massive de cette hormone, l'Union cycliste internationale a décidé en 1997 de mettre en place des contrôles sanguins lors des grands événements. Ces contrôles avaient pour objectif de mesurer le taux d'hématocrite, c'est-à-dire le taux de globules rouges présents dans le sang des sportifs. En améliorant l'oxygénation du sang, l'EPO augmente le taux d'hématocrite des personnes la consommant. Ainsi, l'UCI a établi à 50% le taux au-delà duquel un coureur était suspecté de dopage. Après ce petit historique sur le dopage, nous allons voir comment le système de dopage était organisé au sein de l'équipe Festina. C'est dès 1994 que Bruno Roussel met en place au sein de son équipe un système de dopage sous contrôle médical et très encadré. Il ne voulait pas que les coureurs consomment de produits dopants par eux-mêmes sans avoir de connaissances en médecine. Son but était donc d'augmenter les performances de ses coureurs pour que l'équipe brille au niveau sportif, tout en minimisant l'impact sur leur santé. Au quotidien, les sportifs prenaient une quinzaine de cachets au moment du déjeuner. Les médecins de l'équipe veillaient à la prise de substances par les sportifs. Ils vérifiaient les quantités de substances par prise ainsi que les horaires afin que les produits ne soient pas détectables en cas de contrôle. Le masseur Willy Voot, lui, était chargé de l'intendance et de la gestion du processus. Il avait pour mission de transporter tous les produits dopants. De plus, tout était renseigné dans des carnets, qu'il s'agisse des factures pour que les comptes soient tenus ou bien des fiches de suivi médical de chaque sportif. La majorité des produits étaient financés grâce aux primes gagnées par les coureurs lors des courses. En plus de cela, des prises de sang étaient effectuées sur les coureurs toutes les semaines pour vérifier leur taux d'hématocrite. La plupart du temps, les produits étaient pris en amont de la course afin que l'organisme ait le temps de l'assimiler et qu'il ne soit donc plus détectable au moment d'un contrôle. Comme révélé tout au long des investigations, l'affaire Festina n'est pas un cas isolé. Une large partie du peloton utilisait également des produits dopants. Les médecins de chaque équipe se connaissaient et allaient même jusqu'à se dépanner lorsqu'un produit leur manquait. Le dopage était bel et bien généralisé dans le cyclisme mondial. Certains spécialistes parlent même de dopage culturel dans le cyclisme. Les événements des Tours de France suivants, avec le coureur Lance Armstrong, ne démontreront malheureusement pas le contraire. C'est dans ces circonstances, à la suite du scandale de l'affaire Festina et de l'explosion du dopage dans le sport, que de nombreuses actions furent entreprises. En France, un projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite la loi Buffet, proposée avant le début du Tour de France en 1998, a été votée à l'unanimité en 1999. La Fédération française de cyclisme a aussi mis en place différents éléments comme un suivi médical des coureurs pour lutter contre le dopage dans le cyclisme français. Et, en 1999, l'Agence française antidopage a été créée, puis deux ans plus tard, en 2001, des tests de dépistage de l'EPO ont été mis en place. Au niveau international, les choses ont également évolué rapidement. Le Comité international olympique a organisé, du 2 au 4 février 1999, la première conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Lausanne, en Suisse. Cette conférence a notamment abouti sur la rédaction de la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport. Ce document était majeur car il prévoyait la création d'une agence internationale et indépendante de lutte contre le dopage. Celle-ci se devait d'être opérationnelle pour les Jeux Olympiques de 2000 qui avaient lieu à Sydney, en Australie. C'est donc en vertu de cette déclaration de Lausanne que l'Agence mondiale antidopage a été fondée le 10 novembre 1999. Dès sa création, elle a eu pour mission de promouvoir et de coordonner la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international. Il s'agit d'une fondation de droit privé suisse constituée à l'initiative du Comité international olympique avec le soutien et la participation d'organisations intergouvernementales, de gouvernements, d'administrations et d'autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre le dopage dans le sport. Par la suite, le premier code mondial antidopage est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Cet instrument juridique a pour but d'harmoniser la réglementation antidopage dans tous les sports et dans tous les pays. Aujourd'hui, près de 600 organisations sportives l'ont adopté et il a été révisé 3 fois pour s'adapter au mieux à la répression du dopage. Un an plus tard, en 2005, la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport est adoptée à l'unanimité par les 191 États présents à la Conférence générale. Il s'agit du premier traité universel de ce genre et traitant exclusivement du fléau que représente le dopage. Cette convention aide à harmoniser la législation, les directives, les règlements et les règles antidopage au niveau international afin de garantir à tous les athlètes un environnement juste et équitable. Le retenti médiatique de l'affaire Festina fut énorme. Le grand public a alors réalisé à quel point le dopage était présent et organisé dans le sport, et notamment dans le cyclisme. On peut tout de même dire que c'est un mal pour un bien. Le Tour de France a grandement été secoué en 1998, mais cet événement a permis au mouvement international et au gouvernement de prendre conscience de l'ampleur et de l'impact négatif du dopage dans le sport. Bien qu'intervenant une fois le scandale passé, l'affaire a permis la mise en place d'un plan de lutte contre le dopage centralisé et harmonisé au niveau international. Aujourd'hui, le dopage continue à sévir et à mettre à mal l'image du sport. Plusieurs athlètes ou personnes encadrantes sont suspendues chaque année. Cependant, l'Agence mondiale antidopage, qui comprend en son sein aussi bien des experts des domaines médical et scientifique, des biologistes, des juristes et bien d'autres encore, a mis en place un cadre efficace pour lutter contre le dopage. Bien qu'il n'est pas possible d'empêcher réellement quelqu'un de tricher et donc de se doper, les acteurs de la lutte contre le dopage agissent postérieurement pour punir les personnes concernées. Différentes actions sont tout de même effectuées en amont grâce à des programmes d'éducation des personnes du monde sportif. Ainsi, les athlètes et personnes encadrantes sont éduqués sur le système de lutte contre le dopage mis en place à l'international. Ils ont connaissance des conséquences pouvant leur être appliquées en cas de dopage. Les sportifs en soif de victoire ont recours à tous les moyens pour gagner. Le dopage est donc malheureusement loin de disparaître, mais nous retiendrons aujourd'hui que le scandale de l'affaire Festina a permis une réaction positive de la communauté internationale et du mouvement sportif pour lutter urgemment et efficacement contre ce fléau. Merci d'avoir écouté cette série de 3 épisodes sur l'affaire Festina. C'était Lou Levadou et je tiens à remercier David Pavot, Alexandra Devouge, Jess Fafard-Théoré et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, visitez notre page sur le usherbrooke.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt !